BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Jérôme Dédéian, faut-il le rappeler, vous êtes un habitué bien sûr de BFM Business, vous êtes fondateur et associé de la société de conseil RS. On sait donc 22 000 amendements déposés à l'Assemblée nationale, ça veut dire que ça va être un peu compliqué.
Ça va être une magnifique procédure accélérée.
Oui, exactement, oui, c'est ce qu'on redoute, quitte à aller jusqu'au 49-3, hein, comme l'a peut-être mentionné en tous les cas un député du MoDem. Conférence de financement, ça c'était jeudi. Mais il y a un point très intéressant, c'est qu'on en a souvent parlé ici, mais je crois que vous aussi, vous voulez nous interpeller là-dessus sur la retraite des cadres, enfin des hauts cadres, des hauts revenus, au-delà des 120 000 euros, avec cette fameuse cotisation de solidarité, mais qui ne donne droit à aucun droit, justement.
Exactement. En fait, on parle de 350 000 personnes, oui, qui sont à peu près 200 000 salariés du privé, 100 000 ou 130 000 indépendants, donc profession libérale, artisans, commerçants, agriculteurs, et puis une petite poignée de fonctionnaires qui gagnent plus de 120 000 euros par an, donc plus de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, tout le monde cotise, je vous passe les virgules, 28% de cotisation, voilà, qui sont non contributifs pour 2,30% et le reste crée des droits. Demain, au-delà de 120 000 euros de revenus, la cotisation non contributive passe de 2,30 à 2,81. C'est un des aspects redistributeurs de la réforme qui est prévue. Et on ne paye plus les 25% et des poussières de cotisation. Donc on n'a plus de droits pour ces cotisations. On perd donc 25% de cotisation retraite qui créait des droits au-delà de 120 000 euros.
Oui, ou à l'inverse, d'autres disent on paye moins de cotisations.
Alors, 60% était payé par l'employeur, 40% par le salarié. Et le résultat des courses, c'est qu'effectivement, il y a au fond un gain pour l'employeur de 60% et un gain pour le salarié de 40% d'augmentation de son aide payée si on prend les choses au premier degré. Mais ce n'est pas du tout ça qui va se passer, puisque comme ça ne crée plus de droits, il va bien falloir compenser. Et si on ne crée pas les conditions de cette compensation par la capitalisation, on va se retrouver avec une manne qui va diminuer puisqu'elle sera soumise à l'impôt sur les sociétés pour les 60% de cotisation employeur et à l'impôt sur le revenu pour les cotisations salariales, donc amputée de cet impôt. Et même si les gens le replacent derrière, eh bien en fait, ils n'auront pas du tout de quoi compenser la perte de leurs droits à répartition.
Oui, donc
il y a un petit piège à cet endroit-là. Ouais. Ce piège-là, le seul moyen d'en sortir par le haut, c'est évidemment de relever les plafonds qui permettent d'épargner pour la retraite par capitalisation en déductibilité de son impôt sur le revenu, ou pour les entreprises de payer des cotisations au profit de leurs bénéficiaires, de leurs salariés, en franchise de cotisations sociales ou d'impôts. Donc il faut relever les plafonds parce qu'en l'état actuel, quelqu'un qui est frappé par cette mesure et qui souhaiterait recycler cette économie, entre guillemets, qui ne crée plus de droits vers un système de retraite par capitalisation, ne peut pas le faire parce qu'il sature les plafonds.
Oui, absolument. Donc il est obligé de faire la retraite par capitalisation.
Alors, il est obligé de le faire, mais il ne peut pas le faire dans des conditions efficaces avec les plafonds d'épargne retraite actuels. Il va falloir, nous on estime, on a fait le calcul chez RS, on estime qu'il faut doubler les plafonds pour permettre aux gens de recycler ce qui ne contribuera plus à leur régime par répartition et ne créera plus de droits vers un système de capitalisation efficace sans qu'il y ait de déperdition fiscale ou sociale au passage.
Oui, parce qu'il y a aussi les entreprises du coup qui s'inquiètent.
Alors, bien sûr.
Parce que en termes de compétitivité pour faire venir des hauts revenus.
Exactement.
En plus, il y a la crainte justement de trouver d'autres. Parce qu'on peut avoir d'autres systèmes qui peuvent se mettre en place.
Mais, en fait,
même pas avec sans plafond.
Non,
pas pour l'instant.
Oui, on peut, mais si on utilise des systèmes qui ne permettent pas d'épargner en franchise de fiscalité, en fait, ce qu'on aura à investir, c'est la cotisation qu'on ne paiera plus à la répartition, moins l'impôt. Et donc, ça veut dire que la masse à épargner est tout à fait insuffisante une fois qu'elle a été amputée de l'impôt pour permettre de compenser la perte des droits à répartition de cet arrêt des cotisations au-delà de 3 plafonds annuels de la Sécu.
Donc, vous avez, j'imagine, un petit peu alerté les uns les autres sur cette question-là. Comment on sort ? Parce que là, ce que vous nous décrivez, c'est la réalité en l'occurrence, la réalité du projet de loi. Comment est-ce qu'on détricote ce nœud, quoi ? On relève les plafonds, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités ?
Alors, non, il faut vraiment. Parce qu'on a fait toute la réforme de l'épargne retraite dans la loi PACTE.
Oui,
donc on a désormais un plan d'épargne retraite unique, qu'on peut souscrire dans son entreprise ou à titre individuel, qu'on peut alimenter efficacement avec beaucoup de liberté à la sortie, donc un produit extrêmement souple, portable, etc. Donc ce volet-là, il est prêt. Il est juste bridé par les plafonds anciens auxquels on n'a pas touché et qui vont être complètement tamponnés.
Ils sont combien, rappelez-nous ?
Alors, qui sont, en gros, mon plafond épargne retraite, votre plafond épargne retraite individuel, c'est 10% du revenu imposable pour chacun des membres du foyer, avec un plancher qui est d'un PASS, même si vous gagnez moins de 40 000 euros, vous avez quand même 4 000 euros de défiscalisables en épargne retraite, et c'est plafonné à 8 PSS, ce qui à la limite suffit.
Plafonné à la sécurité sociale, hein, le PS.
Simplement, si on recycle les cotisations qu'on ne paiera plus à la répartition créée, qui ne sont donc plus génératrices de droits, et qu'on les recycle dans les plafonds actuels, on sature les plafonds, et donc on est amputé de la fiscalité, ça ne compensera pas. Il faut relever les plafonds. Et nous, on a calculé qu'il fallait à peu près les doubler par rapport à leur état actuel pour permettre une compensation liée à la fin de ces cotisations pour
répartition. Et qu'est-ce qu'il faut mieux ? Est-ce qu'il faut mieux relever le plafond qui vous donne toujours des droits, qui ouvre toujours des droits à la retraite, donc les 120 000, je ne sais pas, le passer à 150 000, ou plutôt relever les plafonds de la retraite par capitalisation défiscalisée ? Qu'est-ce qu'il faut mieux ?
La vérité est peut-être un peu entre les deux. Il faut peut-être faire les deux. En fait, la capitalisation ne pourra pas tout faire. Il y a 330 milliards de prestations de retraite des régimes par répartition. Ouais. Si on dit qu'on veut que, je sais pas moi, 20% de ces 330 milliards soient versés en fait par des systèmes de capitalisation qui prendraient le relais, en fait, ça veut dire qu'il faut accumuler 2000 ou 2500 milliards d'euros d'épargne retraite et ça va prendre du temps. C'est pas impossible à l'échelle démographique et sur le temps long, mais ça, il va falloir laisser ça monter en régime. Et donc, il faut peut-être être un peu moins brutaux dans les mesures de cessation des cotisations à la répartition, essayer d'organiser une transition qui soit un peu plus intelligente et sur longue période pour permettre à la puissance de la capitalisation de se développer, parce que la CAPI, c'est simple, hein, ça démarre à zéro et c'est seulement dans la durée que les intérêts sur les intérêts, hein, c'est le principe macroéconomique de l'intérêt composé, permettent de libérer la puissance de l'instrument.
Ouais, d'accord. Donc
c'est pas un coup de baguette magique qui permet d'accumuler tout d'un coup de l'épargne retraite.
Qu'est-ce que, au-delà de ça, parce que ça va être un point qui va être en discussion, hein, j'imagine, à l'Assemblée nationale, au-delà de ça, qu'est-ce que vous retenez de cette conférence de financement qui vient de s'ouvrir, mais à votre avis, on se dirige vers quoi ? Une mesure d'âge ou pas ? Édouard Philippe, il a repris un petit peu de recul, il a dit, maintenant, bon, voilà, vous connaissez ma position, mais je laisse la bride sur l'échine des partenaires sociaux.
Alors, ce qui est clair, c'est que là, on attaque quand même la question du financement, qui est quand même centrale dans cette réforme des retraites, et on met un peu, on a mis la charrue avant les bœufs, et on traite maintenant le financement. Ce qui est clair, c'est que, en fait, le débat, il est sur, est-ce qu'il y aura mesure d'âge ou cocktail de mesure ?
Bon.
Et moi, je veux dire, il y aura cocktail de mesure d'âge. Voilà exactement ma position. Pourquoi ?
Alors, expliquez-nous, ça mérite effectivement des précisions.
Il semble très difficile de toucher au niveau des cotisations. Si on montait les cotisations, on ferait un prélèvement sur nos entreprises, ça pénaliserait leur compétitivité et on rentrerait de nouveau dans la spirale infernale de perte de compétitivité égale perte d'assiette taxable, moins de croissance, moins d'emplois, etc. Ouais. Et donc, il vaut mieux garder les cotisations à un niveau où nos entreprises continuent à être compétitives et penser que la croissance économique et le développement de l'emploi vont augmenter l'assiette sur laquelle on prélève ces cotisations. Donc ça, c'est une chose. Donc on peut difficilement toucher aux cotisations. Ensuite, on a dit, il y a plein d'endroits où on peut taper dans les réserves de l'ARCO-AGIRC. Alors, c'est assez simple. Hein. J'ai discuté ce matin avec Emmanuel Grimaud de Maximis, qui connaît très bien ces sujets, il y a 70 milliards d'euros de réserves à l'ARCO-AGIRC. 70 milliards d'euros, c'est 2 mois et demi de prestations du nouveau régime universel.
C'est 70 milliards ?
Oui.
D'accord, non mais parce qu'on entend 70. Donc j'aimerais bien...
Mais même si c'est 70, imaginons que ce soit 70, qui est plutôt le chiffre haut qui circule, c'est 2 mois et demi de prestations du nouveau régime universel. C'est pas avec ça, c'est vraiment anecdotique, entre guillemets, dans notre problème de financement. Ouais. C'est la même chose pour ce qui est des réserves, des fameuses caisse prétendument excédentaire des libéraux sur lesquels on dit il y aura peut-être un hold-up, c'est pas vrai puisque ce qui est prévu dans la loi c'est qu'on compense leurs droits de façon arithmétique avec une règle de 3 et donc ça veut dire qu'ils vont garder les avantages liés à leur saine gestion et à leur provisionnement. Donc c'est pas avec ces petites mesures anecdotiques qu'on va faire le boulot.
D'accord.
Et donc ça veut dire que c'est forcément des mesures d'âge, mais je dis des mesures parce qu'il va falloir à la fois inciter les gens à partir plus tard, c'est la notion d'âge pivot, on en a abondamment débattu, mais aussi favoriser de plus en plus la retraite progressive ou la pré-retraite qui sont plutôt plébiscitées par les Français, qui sont un moyen d'organiser une transition qui se passera bien sur le temps long.
Donc, est-ce que, une question de fond, est-ce que c'est si important que ça d'être à l'équilibre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on dit, il y a 12 milliards à trouver, c'est urgentissime, etc. Enfin bon, et finalement, on est à 14%, on sera peut-être à 13,8. Est-ce que c'est si important ? Je veux dire, on a un tel niveau d'endettement, je veux dire, si on... Enfin, c'est pas dramatique.
Ouais, en fait, la question que vous posez est la question de la soutenabilité du système par répartition, et est-ce qu'on sait s'il va droit à la faillite ou pas ? Et en fait, personne ne sait répondre à cette question, et je vais vous dire pourquoi. Pour des raisons assez simples.
Je vous interromps juste.
La première chose, oui.
Non, mais c'est qu'en plus, dans le nouveau système, si on en croit l'étude d'impact, on restera déficitaire, enfin le montant des retraites sera toujours grosso modo entre 13 et 14% du PIB.
Absolument.
Vous êtes d'accord, hein? Donc, oui. Ok, voilà.
Bon, et donc, en fait, le sujet, c'est notre fameux papy-boom. Bon. Notre fameux papy boom, c'est 800 000 départs en retraite depuis 2008 au lieu de 400 000 qui est la norme sur longue période.
Donc,
mais c'est là aussi, je dois cette bonne plaisanterie à Emmanuel Grimaud de Maximis, le papy boom, il va y avoir un cimetière boom, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une bosse démographique qu'il faut qu'on franchisse. Et donc, accepter de laisser filer un peu le déficit pendant qu'on franchit cette bosse démographique pour revenir à l'équilibre sur temps très long n'est pas totalement scandaleux. Ça, c'est parfait et toutes choses égales par ailleurs. On se dit, au fond, on pourrait accepter un déficit temporaire. Mais il y a quand même des petits sujets qui nous chatouillent. Ces sujets sont quoi ? Premièrement, l'allongement de la durée de vie. Même si ça se ralentit un peu, on a des Google, des transhumanistes qui nous disent qu'on va vivre 125 ans. Et si c'est vrai, le système va exploser. Si vous mettez en face un très très fort allongement de la durée de vie lié au progrès de la médecine et de la technologie, donc beaucoup de retraités qui vivent beaucoup plus longtemps. Là, la bosse démographique, elle est durable et elle va s'aggraver. Et puis vous avez en face des incertitudes sur l'impact de la technologie et de la démographie sur la croissance. Mmh. Et donc sur l'assiette cotisable. Donc moins de ressources potentielles et une population à servir beaucoup plus élevée, le système peut exploser. Mais personne ne peut le dire, parce qu'il faudrait avoir une boule de cristal pour dire combien de temps vous allez vivre, combien de temps je vais vivre à partir de notre espérance de vie actuelle. Bon. Donc, ça ne veut pas dire que gouverner n'est pas prévoir. Et donc, dire qu'on va essayer de maîtriser les équilibres financiers du système sur moyen terme et sur long terme, comme le projet de loi organique le prévoit, avec un pilotage à 5 ans, puis le pilotage à 40 ans. 5 ans, c'est peut-être un peu court à l'échelle de la démographie, mais mettons un pilotage à 5-10 ans et un pilotage à 40 ans, c'est de la saine gestion. Et donc, il est nécessaire de mettre en place les conditions de gestion des paramètres simples pour anticiper des évolutions démographiques ou technologiques ou de croissance économique que personne ne peut anticiper ou prévoir.
Merci beaucoup, Jérôme Dédéan. On a encore plein de questions, mais l'heure tourne. En tous les cas, merci de nous avoir alerté, notamment sur les cadres. Voilà ce qu'il faudrait faire. On va voir si vous êtes écouté ou suivi. En tous les cas, c'est certainement un des points qui va être mis en avant lors de la discussion de ce projet de réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, l'associé fondateur de RS. Dans un instant, c'est Hervé Juvin. Il est député européen, le Rassemblement national, chef d'entreprise. Il a été proche de Raymond Barre, Corinne Lepage. Maintenant, et on le dit qu'il est un peu la caution intellectuelle de Marine Le Pen. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité Hervé Juvin, député européen Rassemblement National, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ici à Paris. Hervé Juvin, vous êtes chef d'entreprise, vous avez créé des entreprises, vous avez vendu, vous êtes toujours consultant. Et puis vous êtes écrivain, vous avez écrit pour la revue Contrepoint, donc la revue Débat. Voilà, la revue Débat. D'abord, une petite question avant de parler du Rassemblement National. Comment passe-t-on de Raymond Barre, Corinne Lepage, en passant par Marine Le Pen, en arrivant à Marine Le Pen?
C'est un long chemin qui l'homme m'a conduit jusqu'ici. C'est probablement un chemin qui va nous rapprocher des sujets de l'Union européenne et du Brexit. J'ai fait partie de ceux qui ont cru dans les années 90 à l'Union européenne comme union de nations souveraines, comme union de peuples libres et comme moyen de faire avancer la démocratie. Et puis j'ai commencé à me poser des questions. Et ces questions sont devenues beaucoup plus ardentes après le double déni de démocratie qui a constitué à nous resservir le plat froid de la Constitution européenne lors du pacte de Lisbonne, alors que les référendums en France et aux Pays-Bas avaient clairement voté contre ce projet de Constitution. Et j'ai commencé à considérer que l'Union européenne, ça n'était pas la démocratie, que l'Union européenne était en train de détruire les nations et donc de détruire l'Europe parce que l'Union, ça n'est pas l'Europe. Et ça nous ramène naturellement au Brexit.
Oui. Hervé Juvin, quelle est la position exacte ? Hier, on recevait Marine Le Pen dans le cadre de BFM Politique, sur BFM TV. Quelle est votre position ? Parce que Marine Le Pen, elle a beaucoup évolué. Moi, j'ai eu pas mal de discussions avec elle, notamment sur le Frexit, sur comment on sort de l'Europe ou pas. Maintenant, on reste au sein de l'Europe. Sur l'euro, on sort de l'euro. On se souvient qu'elle voulait une double monnaie, avec l'arrivage à un franc qui serait de nouveau créé, mais en maintenant l'euro. Tout ça s'est balayé, d'après ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que vous pouvez nous confirmer quelle est la position exacte du Rassemblement National par rapport à l'Europe et par rapport à l'euro ? Et après, on parlera du Brexit. Est-ce que ça se fait ou pas ? Vous nous direz ça.
D'abord, nous considérons que nous sommes les vrais Européens.
Ouais.
L'Europe, elle est faite de la diversité des nations qui la composent. L'Europe, elle est faite de nations qui sont le fruit de l'histoire, histoire millénaire, qui sont le fruit de grandes traditions, Rome, Athènes, les racines chrétiennes de l'Europe. Et l'Union européenne tente de dissoudre tout cela. Donc nous sommes les vrais Européens et nous tentons de remettre l'Europe sur les rails. Mais donc, l'Europe sur les rails, c'est une Europe des nations. L'Europe sur les rails, c'est une Europe qui accepte la démocratie, c'est-à-dire qui accepte que les peuples se prononcent par le suffrage universel sur leur destin.
Mais est-ce que la Commission européenne reste en place ? Est-ce que le Parlement européen reste en place ou pas ?
Alors la Commission, nous considérons qu'elle devrait être une sorte de secrétariat général du Conseil européen. Le Conseil européen qui réunit les chefs d'État et les ministres devrait disposer de la Commission comme secrétariat général, mais la Commission européenne, pour nous, a acquis un pouvoir manifestement démesuré. J'en prendrai un simple exemple qui est d'ailleurs à l'origine du Brexit. Les traités commerciaux sont à l'initiative de la Commission européenne, ne peuvent être discutés et négociés que par elle. C'est évidemment un déni de souveraineté manifeste.
Avec un mandat, bien sûr. Ah bah oui, il y a un mandat qui, lui, pour le coup, il est politique.
Les multiples empiétements de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, ces empiétements sont aussi en partie à l'origine du Brexit. Bref, il faut remettre l'Union européenne sur le chemin de la démocratie, il faut la remettre en harmonie avec l'Europe.
Oui, mais dès lors que vous avez un mandat qui a été fixé, on parle sur les grands textes, que ce soit le TAFTA ou d'autres, il y a un mandat extrêmement précis qui est donné à la Commission européenne.
Vous avez raison.
On le connaît ou on ne le connaît pas.
Parce qu'un mandat établi, un autre mandat peut le modifier.
Ben, on le voit bien.
Un traité a établi, un autre traité peut le modifier. Et nous n'entendons pas être les prisonniers des traités ou des mandats qui ont d'ailleurs été négociés dans des conditions sur lesquelles il faudrait revenir.
Hervé Juvin, est-ce que vous avez fait la fête vendredi soir ? Est-ce que vous êtes partie de ceux qui se sont félicités du Brexit ? Du moins, vous en êtes félicité pour les Britanniques ?
Il faut se féliciter de l'avancée de la démocratie. J'étais présent au Parlement européen le 29 janvier au soir, quand le Parlement a voté l'accord qui décide du Brexit et donc de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Je dirais d'abord que la démocratie a gagné. Oui. Le référendum britannique était clair. Le vote en faveur de Boris Johnson et de son programme était clair. Donc le Brexit, c'est la démocratie qui marche.
Oui, en même temps, il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été dits.
Des propos pas très convenables de beaucoup de mes collègues parlementaires, puisqu'on a réentendu à cette occasion le fait que les Britanniques avaient été trompés, que beaucoup de fake news avaient été à l'œuvre.
C'est vrai, vous le savez bien.
Manifestement, ils allaient regretter leur choix.
Ah, ça, le dernier point, comme vous dites, on le verra, l'avenir le dira.
Je voudrais revenir sur les fake news.
Oui, les fake news.
Les plus grandes fake news, c'est quoi ? C'est Monsieur Trichet nous disant que l'euro va assurer la convergence. Ça n'a jamais autant divergé en Europe que depuis la mise en place de l'euro.
Sauf au sein de la zone euro.
Ce sont les discours de la Banque Centrale Européenne disant qu'avec la gestion de l'euro, on va trouver la croissance, le plein emploi, etc. Quelle vaste plaisanterie quand l'Europe, l'Union européenne, est la lanterne rouge de tous les pays en termes de croissance, porte mal en termes d'emploi,
par rapport à la Chine.
La divergence entre les pays de l'Union
par rapport à l'emploi, pas forcément. Le niveau d'emploi, il est dans des pays comme le nôtre, il est très élevé, mais dans d'autres pays, il est beaucoup plus faible que vous prenez l'Allemagne. Quand vous prenez l'Allemagne, par exemple.
Les fake news.
Oui, mais vous avez bien les fake news auxquelles on fait allusion, Hervé Juvin. Donc, notamment sur le système britannique de santé qui était qui pourrait être beaucoup plus performant si l'Union européenne n'est pas là. Et il y a eu plein de fake news. Même Boris Johnson le reconnaît.
Oui, mais regardez ce qui est en train de se passer. Boris Johnson, dans son programme, est en train d'allouer 25 à 30 milliards de livres en plus au système national de santé britannique. La santé n'est pas l'ennemi de l'entreprise ou de la croissance, bien au contraire. Il est en train d'envisager une hausse de la part des dépenses publiques parce que l'investissement en infrastructures, notamment, n'est pas l'ennemi de la croissance et de l'entreprise. Il a fait
non,
bien plus, il vient
déficit.
De nationaliser
Northern Rail. C'est l'ennemi du déficit, ça, on sait bien, du déficit.
Il vient de nationaliser une compagnie de chemin de fer en montrant bien que rien n'est à bout. C'est ce que nous déplorons très profondément dans l'Union européenne. L'Union européenne obéit à des idéologies, l'Union européenne obéit à un certain nombre de tabous de nature quasi religieuse, alors que le monde est en train de prendre un autre chemin. Et je crains qu'une fois de plus, la Grande-Bretagne, en prenant le large, ne nous montre aussi la voie qui va s'imposer à toutes les nations qui veulent demeurer
libres. Est-ce que justement, pour l'instant, lorsqu'on regarde en tous les cas Donald Trump du côté américain, qui est notre grand peut-être futur concurrent, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, quand on écoute le président américain, on peut se dire qu'il a l'Europe en ligne de mire. Est-ce que le protectionnisme est quelque chose que vous défendez, le protectionnisme à la Trump, parce que vous pensez que c'est une bonne chose et c'est ça qu'il faudrait appliquer à l'Union européenne ?
Ni protectionnisme, ni libéralisme, le réalisme dans la défense de l'intérêt national et de l'intérêt européen.
Là, attendez, Hervé Juvin, vous connaissez le business, donc là, vous me faites de la langue de bois.
Aucun pays n'a réussi historiquement à faire croître son industrie sans se protéger par des tarifs extérieurs. Et quand vous avez un secteur mature industriel, évidemment que vous abaissez les tarifs et vous abaissez les conditions douanières parce que c'est votre intérêt de diffuser partout vos produits. Aucun des grands pays qui comptent dans le monde ne s'est développé autrement qu'à l'abri de barrières douanières. C'est vrai des États-Unis, comme de l'Allemagne, c'est vrai de la Chine, comme du Japon ou de la Corée du Sud. Quand vous avez des secteurs industriels matures, à ce moment-là, naturellement, vous pouvez jouer le jeu du libre-échange. Je vous rappellerai simplement, mais vous le savez probablement mieux que moi, que le libre-échange, c'est ce qui a fait la fortune de la Grande-Bretagne au 19e siècle, parce que c'était là, de très loin, la première puissance.
Mais est-ce que ça veut dire que les normes, mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, tout ce qui est normes sociales, normes fiscales, les normes européennes, c'est-à-dire qu'elles sont définies aujourd'hui, est-ce qu'il faut, je veux dire, faire une croix dessus? Est-ce qu'il faut, ou au contraire, il faut dire, parce que c'est un peu tout l'enjeu hein, qu'il va y avoir dans les négociations entre Michel Barnier et Boris Johnson, c'est de dire, bah, si vous ne respectez pas les normes européennes, et bah, le marché, il ne vous est pas acquis, le marché, évidemment, de l'Union européenne. Vous êtes où, Hervé Juvin, vous?
Bien entendu, vous évoquiez l'évolution du discours du Rassemblement national sur ce sujet. Si l'Union européenne est un moyen de la puissance des nations européennes, si elle est le moyen de faire respecter nos normes, nos préférences collectives, mais aussi nos traditions et nos histoires, notre diversité, naturellement qu'il faut que l'Union européenne se renforce parce qu'elle sera l'expression des préférences des nations. Et l'exemple du commerce que vous prenez est très significatif. Nous assistons à une... J'interpellais Phil Hogan, le commissaire en charge des négociations sur ces négociations avec les États-Unis. La pression américaine grandit, par exemple, pour le bœuf aux hormones, le poulet au chlore et tout. Ce sont un peu des caricatures, mais elles sont réelles. La question va être très intéressante. Est-ce que l'Union européenne continue de vendre les préférences collectives parce que l'idéologie du libre-échange continue d'y régner, ou est-ce qu'elle va être l'agent effectif de la défense des intérêts et des préférences des Européens? Il est très clair qu'après le Brexit, il faut remettre ça sur la table.
Oui, mais on voit
bien
que
le discours du Rassemblement national est très cohérent. Si l'Union européenne est le moyen de la puissance et de l'indépendance de l'Europe, si l'euro est le moyen, par exemple, de combattre l'extraterritorialité des lois américaines, de combattre les embargos unilatéraux américains, à ce moment-là, oui, il faut une Union européenne qui se renforce parce qu'elle renforcera les nations européennes. D'accord. Si l'Union européenne est le moyen de dissoudre les nations, certainement qu'il faut considérer notre participation.
Donc ça veut dire...
Vous donnez un exemple, c'est le propos scandaleux de Donald Tusk. Donald Tusk qui invite l'Écosse à prendre son indépendance en disant qu'on sera ravis de l'accueillir. Si on veut démembrer les nations, si on veut que la Catalogne quitte l'Espagne, si on veut pas que la Corse ou la Bretagne quitte la France,
c'est Nicola Sturgeon, c'est la première
ministre de l'Union européenne.
Oui, mais c'est la première ministre écossaise qui a dit qu'elle demandait un nouveau référendum parce que justement, elle voulait, les Écossais voulaient rester au sein de l'Union européenne.
Vous voyez bien qu'aucun pays ne peut accepter cette ingérence manifeste.
Ah bah la Russie l'a fait avec la Crimée.
De l'Union, l'Union européenne dans l'intégrité de la nation. Je vous rappelle que la Constitution française place au tout premier plan des devoirs du président de la République l'intégrité de la nation et son
territoire. Mais si les Écossais... Alors, par exemple, Boris Johnson qui refuse justement un référendum indépendantiste à l'Écosse, alors que les Écossais disent on veut rester au sein de l'Union européenne.
C'est une affaire intérieure de la Grande-Bretagne, de la même manière que
vous en pensez quoi ?
C'est une affaire intérieure de l'Espagne.
Mais est-ce qu'on a, le droit d'interdire ou pas ? Je ne sais pas.
Je ne prendrai pas position sur ce qui est manifestement sujet de politique intérieure de la Grande-Bretagne.
Oui, mais qui peut nous concerner, qui peut concerner l'Union européenne.
Ne concernera pas la France.
D'accord, ok. Donc comme ça, vous avez... Est-ce que là-dessus, tiens, à propos de la France, Emmanuel Macron a dit que la France ne signerait aucun accord commercial avec un pays qui ne respecte pas l'accord de Paris. Suivez mon regard, évidemment, les États-Unis, dans le cadre de ces négociations autour du TAFTA. Et puis vous avez Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui dit, c'était à Davos là encore, je l'écoutais, qui disait on va peut-être signer un accord commercial. Il faudrait qu'on signe un accord commercial avec les États-Unis, parce qu'il y a une menace très forte. Où est-ce que vous êtes, Hervé Juvin ?
Il y a beaucoup de rodomontades derrière cet accord de Paris. On sait d'abord qu'il ne sera pas tenu. Les objectifs de l'accord de Paris sur le climat ne seront pas tenus. Mmh. On voit que les trajectoires des pays s'en éloignent. On voit aussi que l'écologie punitive, alors que l'Europe, et en particulier la France, ont des très bons élèves, en particulier à cause du nucléaire, ne va servir les intérêts de personne. Il est même probable, et ça je le redoute, qu'elle provoque une levée de bouclier populaire contre ces oukases d'une écologie punitive qui, en gros, favorise les habitants des grandes métropoles au détriment des territoires ruraux, au détriment de ceux qui vivent encore dans nos villages et dans nos campagnes.
D'accord, on a compris le message, c'est un peu clarifié, mais on voit que finalement vous êtes moins extrémiste peut-être qu'avant, en tous les cas, le Rassemblement National, par rapport à l'Europe, vous attendez de voir. Merci beaucoup d'être venu. Ici Hervé Juvin, donc député européen Rassemblement National. Dans un instant, il y aura Jean-Marc Daniel qui viendra nous expliquer si la croissance en France, il faut s'inquiéter ou pas. Puis après, c'est Loïc Lefranc-Prigent, ancien patron de Elf, justement, on parlera aussi de pétrole et de la SNCF qui sera avec nous tout de suite. Tout de suite, retour dans l'heure H avec nos invités. D'abord, Jean-Marc Daniel. Rebonjour, Jean-Marc. Bonjour. Vous êtes sur le BFM Business depuis ce matin. Puis à vos côtés, Loïc Lefranc-Prigent. Bonjour, rebonjour. Vous êtes l'ancien patron d'Elf, de la SNCF. On parlera de pétrole et de la SNCF. Tiens, sur la grève des cheminots, est-ce que c'était une manière d'essayer d'obtenir quelque chose? Ils n'ont rien obtenu, vous le direz. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la croissance française? On l'a vu, les chiffres publiés par l'INSEE ont montré qu'il y avait une baisse donc sur 2019 par rapport à 2018. On sait que c'est votre grande théorie des cycles. Absolument. Est-ce qu'on y est? Comment est-ce que vous voyez les choses, surtout par rapport à 2020-2021?
Oui, je pense qu'effectivement, la dynamique cyclique des économies développées joue à plein en ce moment sur l'économie française. Si on regarde les chiffres, en 2017, la croissance a été de 2,3%, avec un premier trimestre de 2017 où la croissance trimestrielle était de 0,8%. Puis on est descendu, donc 2018, 1,7, 2019, 1,2, avec un dernier trimestre de 2019 où il y a une légère contraction de l'activité économique. Donc c'était prévisible, et dans la mesure où c'était prévisible, c'est moins inquiétant que si c'était un événement qui arrive de façon brutale et aléatoire. La conséquence de ça, elle est double. La première, c'est que le dernier chiffre du chômage qui était relativement bon est probablement le dernier bon chiffre avant un certain moment. Le deuxième élément, c'est que dans une phase de ralentissement cyclique, ce qu'il faut préparer, c'est le rebond, car il y aura un rebond. Et donc, je pense que les mesures que devrait prendre le gouvernement, c'est de favoriser le plus possible les entreprises pour leur permettre d'être au rendez-vous du rebond. Alors, ce rebond...
C'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez le rendez-vous du rebond?
Le rendez-vous du rebond, c'est le retour de la croissance, c'est-à-dire le redémarrage de l'activité économique. Je pense qu'on va avoir 3 ou 4 trimestres dans l'année 2020 qui va être une année relativement mauvaise en termes de croissance et d'emploi.
Mais vous déjà, la voyez à quoi? Sous 1%? Vous la voyez où?
Ah oui, moi j'ai déjà annoncé dans diverses émissions de la chaîne qu'on serait entre 0,5 et 1%.
Ah oui, donc très pessimiste. Le cycle, oui, bas de cycle alors.
Oui, véritablement bas de cycle. Ce qu'il y a de relativement rassurant par rapport au cycle précédent, c'est que les cycles les plus violents sont ceux qui interviennent quand il y a un choc pétrolier. On a eu une vraie récession en 1993, une vraie récession en 2008-2009, et dans les deux cas, il y avait à la fois une crise financière assez lourde, en 93 pour l'immobilier, en 2008-2009 avec les subprimes, et un choc pétrolier, là aussi assez violent. Or là, le prix du pétrole est aux alentours de $55 le baril, donc on est plutôt dans une phase relativement favorable, entre guillemets, même si on n'est pas dans la situation de la fin des années 90 où on était descendu jusqu'à $20-25 le baril.
Bien sûr, mais maintenant, lorsqu'on regarde les chiffres et puis même les commentaires de l'INSEE, lorsqu'elle a publié ce repli de 0,1%, elle dit notamment il y a eu des grèves, les grèves de cheminots, on en dira un mot dans un instant. Donc, ça ne rentre pas complètement. Si, ça peut rentrer dans votre théorie des cycles en France, mais enfin pas sur le plan économique.
Oui, oui, ce qui me frappe, c'est qu'on a passé tout notre mois de décembre à expliquer que les grèves allaient avoir un impact relativement faible. Historiquement, donc l'exemple que je mettais moi-même en avant, c'était le cas de mai 68, c'est-à-dire la croissance en 1967 a été de 4,7% et la croissance en 68 a été de 4,3%. Ouais. Donc la perte par rapport à l'année précédente a été relativement faible dans une année qui a été beaucoup plus secouée que n'a été l'année 2019. Donc effectivement, ça favorise pas la croissance et puis il y a des secteurs qui, sur le plan microéconomique, souffrent des grèves, mais la tendance générale de l'activité n'est que relativement concernée par ces mouvements sociaux. De même, le Brexit, on en a beaucoup parlé, mais vous regardez les projections qui ont été faites par la Banque Centrale Anglaise, par la BOE sur l'économie britannique, et ils donnent à l'économie britannique un profil qui est assez conforme au cycle britannique, avec là aussi une reprise à la fin de l'année 2020.
Oui, mais un risque de récession ensuite, ce qui n'est pas le cas en France, du moins, je ne crois pas.
Oui, alors après, vous avez effectivement le problème qui va être...
C'est les projections de la Banque d'Angleterre, il faut faire très attention pour pas se faire faire cataloguer. Hein. C'est sûr qu'on dit pour l'instant ça va, mais la suite risque d'être un peu plus compliquée.
Alors après, le Brexit, pour l'instant, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Il y a eu beaucoup de gesticulations de type politique. L'élément essentiel, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et donc, on voit mal comment on irait vers un affrontement tel que ça provoque effectivement des perturbations profondes dans l'activité économique.
Donc, il tient, alors, moins de 1, vous l'avez dit, pour 2020. 2021, en revanche
2021, de nouveau, une marche vers la croissance.
Et à quand la croissance est à 2% en France?
Eh bien, on l'a eu en 2017. Donc, le véritable enjeu, c'est ce qu'on appelle la croissance potentielle, la croissance de long terme. Elle est évaluée à 1,3% par l'INSEE. Il faut faire des réformes de structure pour la faire remonter.
Il faut des réformes des retraites, mais là, ça met les gens dans la rue, donc ça bloque la croissance. Bon, merci beaucoup, en tous les cas, de vos éclairages, éclairages précieux. Jean-Marc Daniel était donc notre invité. Tout de suite, Loïc Lefloc-Prigent, l'ancien patron de Elf et de SNCF. On viendra sur, justement, les grèves des cheminots, puis on reviendra, bien sûr, sur le pétrole. Est-ce que la fin du pétrole, là, tout de suite.
BFM Business, midi, leur H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Loïc Lefloc-Prigent, merci d'être avec nous. Donc, je le disais, ancien patron de la SNCF. Enfin, vous me direz, vous n'avez pas été longtemps patron de la SNCF parce que vos déboires judiciaires vous ont conduit ailleurs, en l'occurrence. Absolument. Tiens, j'ai une petite question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la fuite de Carlos Ghosn, vous qui avez été confronté des systèmes judiciaires français et africains dans votre vie?
J'ai déjà parler là-dessus. Je pense que, il fallait soutenir Carlos Ghosn quand il a été incarcéré et il fallait essayer de l'en sortir. Et ce qui n'a pas été fait, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur pour la France, hein, pour Renault.
Et de l'en sortir, de quel point de vue ?
Sortir physiquement, c'est-à-dire que je pense que la situation de ce qui a été... Ce qui a conduit à ce que Carlos Ghosn aille en prison n'est pas convenable, puisqu'il s'agissait d'une stratégie industrielle contre les intérêts français et qu'il fallait que les intérêts français soient défendus. Et effectivement,
donc pour vous, c'est un complot industriel, c'est pas une question de rémunération qui n'aurait pas dû être versée.
C'est un complot industriel. Tout le monde savait quel était son comportement, pas moins les Français que les Japonais. Et puis à un moment, il y a un conflit industriel, et ce conflit industriel, plutôt que de le régler convenablement, on incarcère un individu dans des conditions absolument lamentables. Et je considère que l'État n'a pas joué son rôle en n'essayant pas de faire sortir Carlos Ghosn et d'avoir une vision réaliste de ce que peut être l'accord et les évolutions de l'accord entre les Japonais et les Français sur l'automobile. Oui. Et je pense qu'on va le payer très cher parce que on continue à dire tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non. Et il y avait un industriel qui comprenait la gestion industrielle de cette espèce de triangle et que c'est pas évident de retomber sur ses pattes après ce qui s'est passé.
Oui. On va le payer très cher. Loïc Lefloc-Prigent, toute dernière question là-dessus. Est-ce que vous comprenez qu'il est qu'il ait pris la fuite.
Dans la mesure où il avait un endroit où aller, si jamais il avait eu comme chance que d'aller en France, il aurait été réincarcéré en France. Il se trouve qu'il était également libanais et qu'il avait la chance d'aller dans un pays où il n'était pas réincarcéré. Bon, ça me paraît de bonne guerre.
Ouais. Voilà. La grève, vous avez été donc patron de la SNCF de décembre 95, donc c'était au moment des grandes grèves, hein, et à juillet 96. Est-ce que la grève des cheminots, la fin du système du régime spécial des cheminots, donc avec la nouvelle loi qui rentre en vigueur, je crois, le 1er janvier dernier, est-ce que pour vous c'est une bonne chose ?
C'est une mauvaise chose de ne pas avoir expliqué ce qu'on faisait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer un système en disant qu'il est mauvais sans faire quelque chose d'autre. Or, on a dit à ces gens, on enlève le statut, et puis un jour, on va faire une convention qui va permettre de régler le problème des cheminots. Puis la convention n'est pas venue. De la même façon qu'on a dit, on va faire la concurrence, ça va être génial, ça va diminuer le prix des billets pour les consommateurs. Or, la façon dont la concurrence est conçue aujourd'hui va au contraire renchérir le prix du billet. Donc les cheminots ne comprennent pas, ils n'ont pas compris vers quel système on va, et tant qu'ils ne comprennent pas, ils ne travailleront pas correctement. Et là, en plus, on est en train de mettre les grévistes et les non-grévistes les uns contre les autres. Or, le train, ça fonctionne avec des gens qui ont envie de le faire fonctionner. Si jamais on ne met pas ces gens ensemble pour qu'ils fassent fonctionner le train, ça ne marche pas. Et là, on commence à avoir, depuis 2018, c'est-à-dire depuis août 2018, on commence à avoir des gens qui disent, bah, de toute façon, pour ces gens-là, je ne vais pas travailler, donc je ne me défonce pas. Or, le train, pour le faire marcher, c'est toutes les minutes qu'il y a des incidents qu'il faut régler et qu'il faut régler ensemble. Alors déjà, oui, on avait le réseau et les gens qui étaient sur les trains, donc on les a séparés. Maintenant, on sépare les grévistes et non-grévistes, tout ça et de la politique de gribouille. Il faut que les gens travaillent ensemble pour faire fonctionner le train.
Oui, mais ça veut dire quoi ça?
Il faut leur expliquer ce qui a été fait. La loi n'explique pas. C'est-à-dire que si jamais vous dites je fais une concurrence en faisant que les petites lignes sont faites par d'autres, ça c'est compréhensible. Si maintenant vous dites la concurrence ça se fait sur les mêmes lignes et il y a plusieurs sociétés qui font la même chose sur ces lignes, on retombe sur un système que les camarades qui sont à l'électricité connaissent, c'est-à-dire que en fin de compte c'est le producteur centrale qui devient la victime du système de concurrence, c'est-à-dire qu'on fait une concurrence artificielle. Mmh. Alors ceci s'explique très bien en économie, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un monopole structurel, faire une concurrence c'est très compliqué, et ce monopole structurel, ils le vivent depuis des générations, et on leur dit on va supprimer le monopole structurel, c'est pas bon. Très bien, on remplace par quoi? Eh bien ils ne savent pas, et moi, ancien président de la CSTF, je ne sais pas par quoi on le remplace.
Oui, bien si, mais on remplace en même temps par des, je sais pas, la Deutsche Bahn qui va pouvoir passer sur nos lignes.
Elle passe actuellement, il n'y a pas de problème. Elle passe aujourd'hui. Les trains.
Ça n'arrive pas en France.
Quoi? Mais bien sûr qu'elle passe en France.
Ça passe en France. Oui, mais quand vous voulez faire un Paris-Toulon, vous prenez la SNCF. Oui, vous pouvez pas prendre la Deutsche Bahn. Là, bientôt, on pourra peut-être prendre la Deutsche Bahn.
Et après, vous allez avoir donc une même ligne sur laquelle plusieurs vont circuler et vous allez augmenter les prix. C'est structurel. C'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne.
Ah, ça peut faire baisser la concurrence.
La concurrence ne veut pas baisser les prix, c'est-à-dire qu'il y a des prix. On peut subventionner. Et d'ailleurs, les Britanniques maintenant disent on va renationaliser le train parce qu'ils s'aperçoivent que qui va dans le train, les gens qui sont fortunés, parce que les gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent plus aller dans le train. Donc on augmente. Et là, aujourd'hui, sur l'électricité, le fait d'avoir fait une concurrence artificielle a augmenté le prix de l'électricité. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis industriel, je paie 25% de plus d'électricité par rapport à il y a 3 ans.
Il y a aussi la transition vers les énergies renouvelables qui coûte.
Et alors, si jamais vous avez. C'est parce que vous avez démonopolisé un monopole structurel que vous êtes dans cet état. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, RTE est un monopole de fait. Et on dit ce monopole de fait favorise les énergies nouvelles. Bon, alors, par conséquent, il augmente les prix. Et d'ailleurs, l'agence.
Ah, c'est le cadre de la loi de la transition énergétique. Hein.
Oui, et bien ça augmente les prix.
Oui, bien sûr.
Et bien la loi sur les transports va augmenter les prix. Et les cheminots qui sont là, on leur dit vous êtes trop cher, vous êtes trop cher, vous êtes trop cher, dit comment on va baisser les prix? C'est ça la question qu'ils posent depuis août 2018. Et on n'a pas répondu à cette question.
Est-ce qu'il y avait quand même, au sein de la SNCF, est-ce qu'il y avait quand même un peu un phénomène de caste entre les conducteurs de train, ceux qui étaient.
C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que.
Il y a quand même des avantages, non? Pas forcément justifiés. Je vous pose la question, vous n'avez pas à rentrer dans la polémique.
C'est-à-dire que vous étiez sur le programme du CNR avec le fait que vous arriviez avec un salaire bas, que vous augmentiez le salaire jusqu'à la fin et que votre retraite était calculée avec les 6 derniers mois. Aujourd'hui, on dit ça c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on fait à la place? Est-ce qu'on augmente les salaires des nouveaux conducteurs ou pas? Donc la question se pose. Et aujourd'hui, cette question n'est pas réglée puisqu'il n'y a pas de convention cheminote. Est-ce que je veux passer d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire que la Deutsche Bahn me recrute, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Cette question n'est pas réglée. Donc tant qu'on n'a pas réglé les problèmes de cette tradition de service public et cette tradition de fonctionnement, tant qu'on n'a pas dit voilà comment on fait, les gens, j'avais dit à la fin de 2018, après la grève de 2018, j'ai dit eh bien le prochain coup, la grève sera pire. Eh bien on est arrivé à une grève pire. Et si jamais on ne répond pas aux questions des cheminots, on continuera à avoir des grèves perlées pour une raison ou pour une autre. La retraite était un prétexte, on va retrouver un prétexte demain, etc. Il faut régler le problème de la compréhension. Vous ne pouvez pas avoir 175 000 personnes qui ne comprennent pas ce qui va leur arriver. C'est pas possible. Et c'est vrai d'une petite entreprise de 40 personnes, c'est vrai encore plus d'un corps social, et un corps social qui a des traditions.
Oui, mais Loïc Lefort-Prigent, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que l'État a fait un énorme investissement parce qu'il a repris la dette.
Il a repris sa dette.
Enfin, la dette de la SNCF, quand même.
La dette de la SNCF, c'est la grève de l'État, de l'État qui dit voilà ce qu'il faut faire. Non, c'est pas la grève de la SNCF. Les cheminots n'ont pas bénéficié. Non,
mais c'est pas leur direction, vous qui avez été président. Je veux dire, il y a eu un problème de gestion, quand même.
L'État dit il faut faire ça. Alors on dit on fait ça. Bon, après, on dit il y a une dette. Et quand je suis arrivé président de la SNCF, les gens disaient de toute façon, c'est pas grave, on n'est pas un milliard près. Bon, moi, j'ai été un milliard près et j'ai râlé sur la manière dont on concevait le TGV, la TGVisation de l'ensemble du territoire, en disant il y a des manières de faire plus intelligentes, puisque en fin de course, je vous rappelle, le TGV ralentit, repart, et par conséquent, la vitesse nominale, qui est de 300 km/h, n'est jamais atteinte. Donc, pourquoi ne pas essayer de faire 240 km/h et d'arriver au même résultat à la minute près? Eh bien, ceci a été gommé parce que tout le monde voulait le TGV, et nous sommes aujourd'hui avec une dette importante qui n'est pas la grève des cheminots, qui est la grève de l'État
Des
choix de l'État.
Oui. Juste une toute petite dernière question. La SNCF qui a versé des primes aux non-grévistes qui ont assuré le service.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que
oui, je sais,
vous avez la possibilité de dire, vous avez fait des heures supplémentaires et on fait des heures supplémentaires, très bien, tout va bien. Ouais. Mais vous dites, c'est parce que le bien, c'est de pas faire grève et le mal, c'est de faire la grève, alors vous allez être puni. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui met les gens les uns contre les autres.
Mais en même temps, il y a quand même un service à rendre aux Français.
Il suffit de dire, c'est de la sensibilité, c'est de la maladresse. Il suffit de dire, vous avez fait des heures supplémentaires, elles vont être payées et tout passe bien. Si vous dites, c'est parce que vous n'avez pas grève que vous êtes payé, ça passe mal, voilà, c'est tout. Mais ça fait en sorte que les non-grévistes et les grévistes, aujourd'hui, sur le terrain, se chamaillent, alors qu'il faut au contraire qu'ils travaillent ensemble.
Vous avez signé dans Contrepoint une longue tribune en disant, attendez, pas de panique, ni la France, ni la planète ne s'appellent Titanic. Donc vous êtes un peu sur la ligne de Donald Trump, hein, qui disait à Davos, encore une fois, qu'il était contre ces prophéties de malheur. Là, évidemment, c'est l'ancien patron d'Elf qui parle, cette fois-ci on parle du pétrole, la fin du pétrole, de ça, l'urgence climatique, pour vous c'est du bullshit,
c'est pas du bullshit du tout. Je pense que il y a un problème lié à notre activité, un problème qui est lié à ce qu'on appelle le sustainabilité, c'est-à-dire le développement durable, qu'il faut qu'on s'engage dans cette voie de façon déterminée, et que et par conséquent, tous les essais qui sont faits à droite et à gauche sur l'énergie sont bonnes. Simplement, il faut constater que nous avons aujourd'hui 85% de notre économie mondiale qui part des fossiles, et qu'on ne va pas changer ça du jour au lendemain. Donc il faut s'engager dans la voie, mais ne pas avoir des anathèmes permanents et des augmentations. Alors, on a vu que l'anathème concernant le diesel et l'essence conduisait au gilet jaune. Hein, on a vu ça. Mm-hmm. Bon, alors on va continuer. On va continuer comme ça. C'est-à-dire que effectivement, les gens sont captifs de l'énergie classique, et l'énergie nouvelle ne vient pas remplacer l'énergie classique, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Alors peut-être arrivera-t-elle un jour. On peut faire des essais, mais disons que par exemple, lorsqu'on dit il y a 5% d'énergie éolienne en France, c'est pas vrai. Installé, mais sur le plan de fonctionnement, c'est 1,5%. Pourquoi? Parce que il y a que 20% d'énergie éolienne qui part dans le réseau. Ouais. Donc je crois qu'il faut raison garder et
faut dépolitiser le débat, mais ça c'est quelque chose.
Et les gens, autant je suis pour regarder le climat, regarder la concentration en CO2, en CH4 et en peroxyde d'azote, je suis prêt à regarder ça, autant quand sur un plateau de télévision, que si jamais je dis urgence climatique, je ne sais pas s'il y a urgence, on me dit non, vous pouvez partir, vous n'avez pas le droit de dire ça, je dis j'en sais rien, il est possible que, mais moi je suis avec des scientifiques.
Le réchauffement climatique,
nombreux.
Vous ne le niez pas.
Quoi ?
Le réchauffement climatique.
Je ne le nie pas, bien sûr. Comment le nier ? Comment le nier ? Alors maintenant.
C'est juste pour que ça soit bien clair.
C'est clair. Donc, et je ne nie pas l'importance de l'écologie, l'importance de l'environnement, et je le clame, et je le développe depuis des années sur toutes les coutures. Mais dire aujourd'hui, le pétrole va disparaître. Je fais disparaître le pétrole en France, alors tout va bien. Non, c'est de la puérilité.
Voilà. Loïc Lefort-Prigent, vous dites qu'il faudra des années pour relever le niveau scientifique de la France.
Oui.
Pourquoi vous dites ça?
Ben parce que j'entends les gens dire que les scientifiques disent que il y a un consensus scientifique.
Petit le GIEC, par exemple, jamais, pour vous, c'est...
Ce n'est pas des scientifiques, c'est un gouvernement intergouvernemental, et les représentants du GIEC ne sont pas des scientifiques. Alors, ils ont une annexe scientifique, et ils ont une annexe scientifique de climatologue. Bon, la climatologie, c'est une science comme une autre. Bon, moi, il se trouve que mon origine, c'est la géologie. Donc, eux, ils sont sur 150 années, et moi, sur des millions d'années. Alors, on n'a pas les mêmes positions, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas converger. Mais disons qu'il ne faut pas écouter un son de cloche, et aujourd'hui, par ailleurs, il n'y a pas consensus. Le consensus scientifique, Galilée n'était pas dans le consensus. Il disait la Terre est ronde. Donc on est aujourd'hui dans la croyance. Et je suis contre la croyance et pour la science.
Mais est-ce
et
qu'on
aujourd'hui,
peut vous...
les scientifiques oui. ne, viennent,
ne, font pas, leur
ne
job.
Viennent pas vous voir. Mais ne viennent pas vous voir. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils se font assassiner. Il y en a eu quelques-uns qui sont venus en disant « Moi, je suis un nuancé. »« Ah ben, vous êtes nuancé? Comment vous êtes nuancé? C'est pas possible. Vous n'êtes pas nuancé. » Et donc, et Greta Thunberg dit « Moi, j'ai le soutien des scientifiques. » Elle n'est pas scientifique. Elle a effectivement quelques scientifiques qui disent la même chose qu'elle, mais les scientifiques, c'est plus compliqué que ça. La science, c'est plus compliqué que ça. C'est un monde complexe dans lequel on n'a pas des simplifications hasardeuses comme celles qui sont réalisées aujourd'hui. Il faut essayer de nuancer le propos, essayer de regarder ce que dit la science, effectivement, et comment elle évolue. C'est-à-dire qu'on dit, la science, à un moment donné, c'est ça qui est la vérité. Non, la science, heureusement, elle évolue tous les jours. Et moi, je suis dans le milieu scientifique, je suis resté dans le milieu scientifique parce que je suis le seul chef d'entreprise de grandes entreprises qui sont issues de la science, et je dis je continue à vivre dans les milieux scientifiques, et c'est plus compliqué que ça, et ça évolue tous les jours.
Est-ce qu'on peut vous dire que vous êtes climato-sceptique? Non.
Moi?
Oui.
Ah non, pas du tout.
D'accord.
Non, pas du tout.
Alors, pas du tout.
Pas du tout.
Voilà.
Je considère. Ah non, mais là, c'est ce qu'on me dit. Alors, c'est devenu. Ouais. Non, je ne suis pas climato-sceptique. Je suis climato-réaliste. C'est-à-dire, j'essaie de voir.
Et qu'on ne peut pas gommer d'un seul coup les énergies fossiles.
Mais d'ailleurs, voilà. Enfin, mais si jamais il y a des climato-sceptiques, je considère qu'ils ont le droit d'être climato-sceptiques, contrairement à ce qui arrive aujourd'hui sur les plateaux de télé. Où on dit climato-sceptique, vous partez. Non, mais je ne suis pas climato-sceptique.
Merci beaucoup. En tous les cas, on a compris. Merci de cette démonstration. Loïc Lefloc-Prigent était notre invité, l'ancien patron d'Elf et de la SNCF. Merci beaucoup. Voilà, c'est
merci
la fin de l'Orage. On se retrouve demain, bien sûr. Une nouvelle Orage, 12h-13h. Et puis demain matin, 8h-15, je recevrai François Asselin, le patron de la CPME. On parlera notamment des retraites et de ses propositions. Bonne journée.